Un podcast Studio Dilettante.
Les chroniques de l'inframonde.
On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
Et on vous explique comment faire.
On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire.
Donc science-fiction, fantasy et fantastique.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les chroniques de l'inframonde. Je suis Corentin, et je suis avec Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour Corentin.
Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau du lancement d'une entreprise. Un sujet qui n'est pas le premier à venir quand on pense à une maison d'édition, celui de la forme juridique. On a déjà pas mal évoqué les ouvrages qu'on souhaite éditer, le travail autour de l'identité graphique, de la ligne éditoriale. Mais pour permettre à tout ça de se faire, pour pouvoir vendre du livre, eh ben il faut une structure administrative, une structure qui peut prendre de nombreuses formes.
Donc la première chose qu'on a à dire sur le sujet, c'est que nous ne sommes pas des experts du domaine juridique. Donc ce qu'on vous dit, c'est ce qui relève de notre expérience, des informations qu'on a récoltées au cours de nos recherches. Et donc là, on va vous parler du cadre juridique et un peu plus en détail du cadre juridique de l'économie sociale et solidaire dans le cadre de l'édition. Pour l'ESS, comme on l'appelle de manière un peu plus courte, nous on a fait un épisode spécial qui est paru le 16 avril, qui est une interview de Laurent Prieur qui explique vraiment tous les tenants et aboutissants de l'ESS, donc merci à lui. Et nous, là, dans l'épisode aujourd'hui, on veut se concentrer sur l'ESS dans le cadre de l'édition. Et pour compléter le sujet, on n'est pas les seuls en fait à en avoir parlé, il y a le dernier épisode de la mécanique du livre.
Effectivement, je vous conseille d'aller l'écouter, c'était assez instructif. De notre côté, avant d'aborder la direction de l'ESS, la direction qu'on a choisie, on va faire un petit point général, déjà sur la notion de forme juridique, qu'est-ce que c'est ? Une entreprise, en fait, elle peut exister sous différentes formes et aspects qui vont essentiellement définir et fixer des limites à sa façon de fonctionner en interne et vis-à-vis du reste du monde, d'un point de vue administratif et économique. On va pas vous faire un tour exhaustif parce qu'on les connaît pas tous, mais vous avez sans doute par exemple déjà entendu parler du terme de SARL. Alors en fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, SARL ça veut dire Société à Responsabilité Limitée. Il y a d'autres formes hein, comme la SAS, Société à Action Simplifiée et encore d'autres. Et ces structures, du coup, elles ont des actionnaires, au moins deux dans le cas d'une SARL, qui vont mettre de l'argent dans l'entreprise. Ce sont eux qui sont du coup dans une certaine mesure propriétaire de cette entreprise-là, même si leur rapport à la boîte elle est défini par des règles qui ont été écrites au moment où ils ont donné cet argent-là. Et ils peuvent demander des dividendes chaque année en fonction des bénéfices de l'entreprise. La hauteur de ces dividendes-là, elle est fixée par les statuts de l'entreprise, donc les statuts, que ce soit dans le cas d'une entreprise, d'une association, c'est une sorte de
règlement qui conditionne quelles sont les règles d'exercice de la structure en question.
C'est ça. Et dans le cas d'une entreprise, ça va notamment définir du coup la façon dont sont gérés les bénéfices. Et en fait, c'est là qu'intervient, on va dire, la première différence, c'est que dans une entreprise d'économie sociale et solidaire, il y a un impératif à conserver plus de bénéfices dans l'entreprise pour permettre à celle-ci de grandir qu'il n'y en a dans une entreprise capitalistique classique. Sachant juste que ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un réinvestissement du côté d'une entreprise conventionnelle. C'est juste qu'elle n'a pas l'impératif que ce soit le cas.
Voilà, donc là, on espère beaucoup ne pas vous avoir perdu après avoir utilisé autant de vocabulaire technique et de parler entreprise, juridique, SARL et compagnie.
Ni vous avoir raconté de conneries au passage.
Voilà, on dit on n'est pas des pros. Hein. Désolé pour les spécialistes qui nous entendent et qui ça hérisse le poil. Donc Corentin voilà, évoquait la première différence hein, avec l'ESS. On est sur une forme qui a un but qui est beaucoup moins, voire carrément pas lucratif. Pour faire une définition mais alors vraiment très brève de l'ESS, hein, parce qu'on a quand même une interview de 30 minutes avec Laurent Prieur qui nous définit le sujet, je vais reprendre en fait une phrase qu'il a dite que j'aime beaucoup aimer, qui est que l'ESS c'est une économie qui va se placer entre l'économie capitaliste et l'économie publique, qui se met à la jonction entre les deux et qui va porter des valeurs d'entraide, de coopération, de vivre ensemble, et qui a un élément central, c'est la gouvernance démocratique. Et je pense que c'est peut-être cette gouvernance-là qui peut être marquée comme le deuxième point de différence majeure par rapport à des entreprises classiques. C'est que là, la gouvernance, elle est démocratique, c'est qu'elle est à l'échelle, donc dans une association des adhérents, dans une SCOP ou dans une SIC des salariés et des personnes bénéficiaires de, des services de l'entreprise. Là où d'autres structures plus privées, donc plus classiques, peuvent aussi adopter ces formes-là, hein, mais n'ont aucune contrainte juridique à les adopter.
Le troisième point, c'est le fait qu'une entreprise ESS, elle aura souvent, donc elle est sociale et solidaire, et ça veut aussi dire vis-à-vis de la société qui l'entoure. Souvent, les entreprises d'économie sociale et solidaire, elles vont avoir une volonté d'avoir un impact social autour d'elles, positif. Il y a une dimension éthique, on va dire, dans cette approche. Au niveau des exemples de structures qui sont au format ESS, on a déjà évoqué quelques noms rapidement. On va en évoquer trois ici principalement, qui sont les associations. Les SCOP, pour résumer, c'est une structure au sein de laquelle ce sont les salariés qui ont le pouvoir décisionnaire. Donc une SCOP, c'est pour société coopérative de production. Et quelque chose qui a été défini formellement et juridiquement récemment, enfin, c'est la SCIC, ou SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui, elle, va être sur un format de partage de décisions. Finalement, un peu entre la SCOP et l'association, puisque elle doit être dirigée par, à minima, trois chambres. Une chambre des salariés, une chambre des bénéficiaires, dont dans le cas d'une librairie, par exemple, ce sera les clients de la librairie, et une chambre autre, qui souvent, dans nous, les exemples qu'on a autour de nous, va accueillir les investisseurs extérieurs, des structures qui seraient intéressées. Ça peut être... une ville, ça peut être une autre association, une autre entreprise.
C'est une personne morale, c'est ça ?
Oui, effectivement. Généralement, le troisième champ, en tout cas dans les exemples qu'on a autour de nous, c'est des personnes morales qui l'occupent. Et voilà, en gros, pour les formats, nous, qu'on connaît le mieux autour de nous.
Et le lien avec l'édition dans le cadre de l'ESS, c'est une forme juridique qui existe hein, dans le milieu éditorial depuis pas mal d'années, par contre qui existe en plus grand nombre depuis une dizaine d'années. Là, je ne pourrais pas vous donner de chiffres précis. Il y a eu un mémoire d'études hein, sur l'ESS et l'édition qui date déjà de 2018 de mémoire, qui a été écrit, hop, que je retrouve, par Thierry Quinqueton. Le livre et l'édition est l'économie sociale et solidaire. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est vraiment une source d'information tout à fait passionnante. Et concrètement, donc l'ESS, qu'est-ce que ça apporte à l'édition ? D'un point de vue économique, là il y a une forte concentration capitalistique dans le monde de l'édition au niveau des grands groupes éditoriaux. Par exemple, Hachette, c'est à la fois une maison d'édition et aussi un grand groupe qui possède plein d'autres maisons d'édition. Et donc, ça fait quand même que la production éditoriale, elle va être concentrée aux mains de... je crois qu'il y a 6 grands groupes en France qui possèdent 90% des maisons d'édition. Alors ça, c'est un chiffre... Alors, ça vient d'un ouvrage de 2015 que j'ai en tête. Donc, ça a dû encore évoluer, mais voilà, ça change d'un mois à l'autre. De toute façon, il y a des rachats constamment. Donc, ça crée quand même un déséquilibre, hein, mine de rien. Et la plupart des structures éditoriales qui relèvent de l'ESS, elles, sont des structures qui sont indépendantes vis-à-vis de ces grands groupes. Et ce sont également, à majorité, des structures qui sont ce qu'on qualifiera des petites ou des moyennes maisons d'édition. Donc, avec un taux de production qui est bien moindre que les grandes maisons d'édition. Hein. Des maisons d'édition, ça va se compter en centaines, leurs titres par an, leur catalogue. Ça vous donne un comparatif, puisque nous, notre catalogue qu'on prépare pour l'an prochain, il y a 4 titres. Voilà, on n'est pas sur la même échelle de valeur du tout. Et c'est pour ça qu'en ESS, on a souvent des discours qui sont portés sur la lutte contre la surproduction éditoriale, qui noie complètement le marché éditorial. On va aussi avoir beaucoup de maisons d'édition engagées dans une meilleure représentativité de tous les acteuristes de la chaîne du livre, notamment des auteurs, mais pas que. Hein. Et donc, ça va un peu dans le même sens que le développement des nouveaux contrats d'édition qui sont plus équitables. Au niveau timing, je trouve que
Il y a une vraie correspondance.
Il y a une vraie correspondance entre le développement de ces choses-là. Et même, il y a une réflexion pour vraiment associer ces acteurs. Nous, on a un exemple, notamment avec une maison d'édition dont on a parlé plusieurs fois, qui est Argile, qui va se lancer, qui est lancée et qui souhaite se transformer en SIC de mémoire, et qui a comme projet de pouvoir impliquer ces autrices dans la structure en leur proposant une place dans l'une de leurs chambres. De manière à ce que voilà, il n'y a pas un lien de clientèle, de prestation seulement entre l'éditeur et l'auteur, et renforcer ça. Voilà pour le lien entre l'ESS et l'édition, sachant qu'actuellement, on a essentiellement des reprises ou des transformations en structure ESS d'entreprises qui auraient eu une forme plus classique ou d'associations qui se transforment en SCOP ou en SIC, et quelques créations directes depuis quelques années, alors que c'était plus rare. C'était plus rare il y a encore une quinzaine d'années.
Après, en dehors de l'aspect économique ou même du côté collectif, la démarche ESS peut aussi avoir un sens d'un point de vue de cohérence pour certaines structures. Par exemple, beaucoup de maisons d'édition, c'est pas le cas de toutes, hein, mais beaucoup de maisons d'édition qui se proposent de fonctionner sur un format ESS, elles ont souvent un contenu qui va être engagé politiquement. Elles vont publier des livres qui vont être plutôt à gauche, pour faire simple. Et en fait, vouloir faire le choix, c'est pas le cas de toutes, hein, mais elles vont vouloir faire le choix d'un format qui correspond aussi aux propos qu'elles diffusent. Enfin, ça sous-entend aussi que la production du livre, l'édition du livre, qui est une édition culturelle, pour certains, elle a une dimension publique, c'est d'utilité sociale, et donc ça doit être non lucratif, et c'est citoyen. Et s'inscrire dans l'ESS, c'est une façon de mettre ça en avant alors qu'on est une structure privée, parce que ça reste une structure privée. Parmi ceux qui choisissent ce modèle pour des questions de cohérence, on a les éditions du commun, dont on a déjà rapidement parlé. C'est la maison au sein de laquelle travaille Benjamin Roux, qui est notre invité d'aujourd'hui.
Benjamin Roux est co-responsable des éditions du commun, une maison d'édition associative rennaise. Il est aussi représentant chez Obo Diffusion et il a contribué au lancement de l'établi des mots, la librairie coopérative du quartier du Blône à Rennes. Bonjour Benjamin.
Bonjour à vous.
Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous dire en quoi les éditions du commun s'inscrivent dans une logique d'économie sociale et solidaire et pourquoi avoir fait ce choix-là ?
Alors si je le dis avec mes mots, ce ne sera sûrement pas la définition officielle de l'ESS, mais pour moi, ce que j'entends dans l'économie sociale et solidaire et ce dans quoi on s'y retrouve, c'est le fait d'être le plus possible hors circuit capitaliste et notamment dans un enjeu de non-lucrativité d'une part de l'activité et d'horizontalité, démocratie décision collective dans la manière de gérer la structure. Et pourquoi on a choisi ça ? Ben, je pense que la réponse est dans la réponse, c'est-à-dire que on ne peut pas s'appeler les éditions du commun si on ne fait pas attention au mode de gouvernance et à mettre le plus possible de gens autour de la table. Et économiquement, si on décide de se faire de l'argent et s'en mettre plein les fouilles à la fin de l'année. Bon, déjà, je pense qu'on n'aurait pas choisi l'édition si on voulait s'en mettre plein les fouilles. Et autrement, bah justement, parce que l'idée de départ des éditions du commun, c'était de créer un outil collectif et pas un outil personnel. Donc, quand je dis parce que j'en suis à l'origine, si je m'en vais, que cet outil existe, continue d'exister et vive avec d'autres gens, quoi.
Pour toi, c'est quoi l'enjeu de choisir du coup un tel format plutôt qu'un autre statut ? Donc vous, le choix, ça avait été une association. Pourquoi l'association plutôt qu'un autre statut ?
L'association, c'est un peu un choix de facilité. Il a le double intérêt de ne pas nécessiter d'apport en capital et de tolérer du bénévolat, ce qui est deux manières de démarrer légèrement une activité économique. Ne pas avoir plein de sous à sortir et à rémunérer tout de suite les personnes, c'est luxueux comme démarrage. Donc c'était plutôt un choix de facilité que vraiment correspondre à la gouvernance qu'on souhaitait à terme. C'est pour ça que ce temps-là est révolu et qu'on est en train de changer de statut.
Bah, du coup, c'était un peu notre question suivante. On sait que vous envisagez de changer de format tout en restant du coup dans une forme ESS. La question c'est quel est ce format et pourquoi maintenant, pourquoi ce changement maintenant ?
Le format, il est coopératif, ça c'est la grande base, et après le statut juridique spécifique, on va le choisir très prochainement. Et pour ça, on est déjà plusieurs autour de la table, mon collègue Sylvain Salarié, nos coprésidents actuels l'association, dont Juliette qui sera aussi une des futures salariées associées. Et donc là, ça va être de définir ensemble quelle est la coquille qui correspond le mieux à ce qu'on veut en faire. Et il y a plusieurs enjeux pour nous. Il y a une montée en capital qui est importante dans consolider la structure. Et il y a donner de la place et de la décision à un ensemble de gens comme nos partenaires, mais aussi de ne pas minoriser le fait que c'est l'outil de travail des salariés. Et donc tout ça nécessite de vraiment choisir. En gros, notre choix, il va être soit un statut SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, soit SCOP plus Association, où la SCOP, elle est plus l'outil des ouvriers, donc l'outil de travail des salariés. Je pense que ça aurait pu être plus tôt, si on l'avait pu. En fait, c'est parce que c'est le bon moment d'un point de vue et stabilité économique et équipe. On est aujourd'hui à l'instant T 5 salariés, on a une petite dizaine de personnes autour de nous en plus, prestataires, bénévoles, etc. Donc c'est le moment pour structurer ça et je pense qu'aussi dans le milieu d'édition, c'est le moment de faire un peu effet de masse de structures qui se créent ou se transforment sous ce statut-là. On l'a vu dans notre podcast à nous, si je fais un peu un moment auto-promo avec les éditions du Passager Clandestin qui sont passées en SCOP. Il y a les éditions d'Aaron qui passent en SIC. Il y a vous qui vous posez des questions autour de ces statuts. Il y a les collègues aussi d'Argile. Enfin, voilà, il y a une énergie en ce moment dans le milieu de l'édition. Et donc, plus on est à basculer sur ces statuts, plus on fera du bien à ce milieu-là, quoi.
On va revenir sur la question de du format coopératif dans le livre, mais avant ça, je voudrais que tu explicites un terme. Tu as parlé de montée en capital. Et comment est-ce que tu expliquerais ça à des gens qui voudraient monter leur boîte et qui sont un peu paumés face à ce genre de termes, comme nous par exemple?
Alors je pense que je ne le maîtrise pas encore tout à fait, enfin en tout cas dans tout ce que ça engrange ou dans sa définition classique, moi ce que j'entends par là c'est avoir un matelas, si je le dis autrement. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières de voir une activité économique. Il y a le bilan, donc les dépenses et les recettes, donc le chiffre d'affaires que l'on fait, il faut qu'il soit supérieur ou égal à nos dépenses de l'année pour qu'on soit viable. Et il y a la question de la trésorerie, avoir toujours assez de sous dans notre roulement mensuel pour pouvoir payer toutes nos charges le temps qu'on engrange les factures qu'on a émises. Donc j'essaie de ne pas trop être technique, mais c'est la base. Et la trésorerie, on peut l'avoir de différentes manières. En ayant une gestion saine depuis le début, mais ça c'est un vœu pieux et on y tient, mais il y a aller chercher du besoin en trésorerie auprès de banques, de financeurs publics, et il y a le capital, c'est de l'argent qu'on vient capitaliser, c'est-à-dire pérenniser dans une structure. Ça nécessite donc de s'appeler actionnaire ou sociétaire en vis-à-vis. C'est là où dans une structure classique on prend des actions et souvent ces actions sont rémunératrices. On investit de l'argent dans une entreprise en espérant à chaque fin d'année avoir une indemnité de rémunération, quoi, de cet argent qui sommeille et qu'on pose quelque part. Dans une coopérative, c'est plutôt consolider la structure et souvent on met une très faible rémunération, voire pas de rémunération, ce qui sera notre cas, il me semble. Et donc voilà, deux manières de consolider la structure, c'est d'aller chercher de la trésorerie ou du capital. Sachant que si on vient piocher dans notre capital, c'est pas bon signe pour la structure sur le long terme. Mais par contre, de manière temporaire, si on a 10 000 euros de capital, ben c'est 10 000 euros de trésorerie dans lequel venir piocher pour temporairement voir venir, quoi. Et le capital, il peut être financier, mais il peut être aussi de matériel. Enfin, c'est tout notre capital immobilier et financier de la structure. Un peu technique.
Non mais merci, c'était ce dont on avait besoin effectivement pour compléter ces aspects-là. Et du coup, une petite dernière question. Au-delà des éditions du commun, tu es investi dans le projet ESS de l'établi démo, donc la librairie coopérative qui a ouvert dans le quartier du Blône à Rennes. Quel attrait tu dirais que l'économie ESS a pour le monde du livre ?
C'est notamment le statut SIC qu'on a utilisé pour l'établi, qui est vraiment donc c'est une coopérative qui ne met pas en sociétaire que les salariés, mais toutes les personnes qui ont un intérêt à voir cette activité exister. C'est un statut qui existe par exemple pour des régies d'eau sur des communautés de communes, justement pour mettre autour de la table des collectivités, des usagers, des professionnels qui vont gérer tout ce circuit, etc. Donc c'est vraiment l'outil idéal aujourd'hui pour collectiviser et dans la gouvernance et économiquement un projet. On le voit beaucoup pour des bars, des bars-restaurants, et ça commence à monter. Mes chiffres ne sont pas actualisés, mais en librairie, quand on a démarré les questionnements, c'est-à-dire fin 2019, il y avait déjà une petite dizaine de librairies en SIC et ça a continué d'augmenter. Donc il y a un enjeu pour que déjà alléger l'investissement que peut être de monter une petite librairie, surtout dans des endroits prise de risque, c'est-à-dire des librairies pas de centre-ville mais de quartier, comme c'est notre cas, et aussi pour impliquer les gens, que ce soit dans la sensibilisation à ce que c'est de gérer une activité, mais aussi dans le choix du type de livre et du fond qu'on va avoir dans notre librairie. Et ça, c'est primordial. Enfin, c'est, pour un bar, c'est choisir quel produit, quel fournisseur, et la librairie, c'est pareil. Quel livre, quel distributeur, et pourquoi eux et pas d'autres.
Eh ben, merci beaucoup pour ces éclairages.
Avec grand plaisir.
Et à bientôt.
Et donc du coup, pour l'inframonde, si on s'est lancé en forme ESS, bah, en fait, de mon côté, sont pour des valeurs assez similaires à ce que Benjamin exposait au début de l'interview, hein, pour les valeurs voilà, de collaboration, de répartition, voilà, des responsabilités. Il y a le côté aussi sortir d'une logique strictement capitalistique, moi qui me plaît beaucoup en fait, dans l'ESS. Hein.
Après, c'est aussi ancré dans l'origine du projet, dans nos caractères. Je peux avoir, toi, tu as dit un caractère assez volontaire, Fanny, mais moi, je pense que le terme que j'utilise, c'est je peux avoir une tendance un peu dirigiste.
Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que moi aussi.
Et en plus de ça, quand on monte une structure avec ses petits bras, bah, ça peut être difficile en fait, de céder du terrain lors des prises de décision, de la voir peu à peu appartenir aux autres gens qui y contribuent. C'est quelque chose que je comprends tout à fait et que je voulais éviter. Enfin, autant à long terme que à court terme, en allant chercher Fanny, je savais qu'il nous fallait un modèle qui nous mette sur un pied d'égalité parce que c'était un projet que j'allais bosser pendant un an de mon côté dans mes cours et qu'il fallait qu'elle puisse s'en emparer, que tu puisses t'en emparer efficacement et dans plusieurs années, les potentiels salariés de la boîte aussi, quoi.
C'est ça. Et en plus, à force d'évoluer dans un milieu où on a tous les deux beaucoup de gens qui sont dans des structures qui relèvent de l'ESS et tout ça, j'ai personnellement de plus en plus de mal à envisager une autre forme, en fait, pour mon organisation du travail, en tout cas dans le travail dans lequel moi je veux travailler. Donc ça, c'est très personnel, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on se tourne vers l'ESS. Hein.
Mmh. Ouais, puis on va pas se le cacher. En tout cas, pour moi, il y a carrément un côté politique. Je trouve ça important de défendre ce modèle-là plutôt qu'un modèle capitalistique conventionnel, auquel, personnellement, je crois pas. Après, là, c'est vraiment... C'est vraiment de l'ordre des valeurs personnelles, mais en même temps, si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous avez envie de monter une maison d'édition ou une entreprise. Et en fait, quelle que soit cette structure, il faut savoir que vous avez cette option de monter une entreprise sous une forme qui peut peut-être davantage correspondre à vos idées politiques. Après, les structures d'économie sociale et solidaire, c'est pas non plus une solution magique et miraculeusement morale. Il y a eu des soucis dans les structures d'économie sociale et solidaire. Il y en a qui sont mal gérées et qui sont pas forcément gérées selon leurs idéaux, leurs valeurs.
Oui, c'est ça. Et c'est pas parce qu'on est censé être sur une base de valeurs éthiques et responsables que toutes les structures ESS sont éthiques et responsables, et de la même manière que des formes plus traditionnelles d'entreprise peuvent également véhiculer toutes ces valeurs-là. Hein. On l'a déjà dit, on n'est pas dans des petites cases et chacun reste dans sa boîte. Hein. Ce n'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais là, on a une structure juridique qui implique quand même une forme démocratique de gouvernance, des valeurs d'entraide, des valeurs solidaires. Donc, c'est quand même important.
Et du coup, tu peux peut-être élaborer un peu sur concrètement comment nous, ça s'est passé pour faire nos choix de statut et de forme à l'inframonde ?
Carrément, parce que ça a été tout un processus hein, qui a été un peu long, parce qu'on y réfléchit donc, depuis le mois de janvier. Là, on est au mois d'avril et on a pris notre décision, genre, il y a deux jours.
Et on a des traces de réunions qui datent de l'année dernière. Voilà. Un an. Exactement.
C'est ça. Et où on discutait déjà de ce sujet-là, quelle forme juridique on voulait prendre. Ensuite, pourquoi on a autant hésité ? Bah, c'est parce qu'on ne s'y connaît pas beaucoup tous les deux, donc il a fallu qu'on se renseigne. Et honnêtement, ça, c'est un des points que je trouve parfois un peu délicat, c'est de trouver des informations concrètes et précises sur les informations juridiques des entreprises en général. On a beaucoup de... Je sais pas comment qualifier ça, une sorte de blabla corporate, de valeurs. Voilà, vous voulez recréer le monde, vous voulez créer votre entreprise, porter des valeurs. Et sauf que, ok, merci pour le discours motivant. Maintenant, concrètement, je fais quoi ?
D'ailleurs, sur ce sujet-là, je trouve que c'est un tout petit peu plus facile de trouver des infos concernant l'économie sociale et solidaire.
Ouais, tout à fait. Hein. Dès qu'on a évacué un peu les questions de forme traditionnelle d'entreprise, ça a été plus facile de trouver des infos et surtout de trouver des interlocuteurs et des interlocutrices. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a fini par solliciter personne, puisque Internet ne nous satisfaisait pas. Et on a été voir plusieurs spécialistes. Donc, on a commencé avec une coopérative d'activité d'emploi qui, à Rennes, c'est Élan Créateur qu'on a été voir, pour voir est-ce que se monter en auto-entrepreneur, qui pourrait devenir une SCOP et tout ça, est-ce que ça correspondait à notre projet. C'était super intéressant tout ce qu'ils ont pu nous dire et surtout super intéressant pour nous dire que non, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on voulait faire. Hein. On s'est renseigné auprès de personnes incubées par TAC35, qui est un incubateur de projets liés à l'ESS. Clairement, c'est une structure qui a l'air absolument géniale, mais qui reposait sur des critères auxquels nous, on ne collait pas non plus. Donc, on s'est dit, non, on ne peut pas être incubé par cette structure-là non plus. On a rencontré ensuite des éditeurs et des éditrices avec différents statuts, associatifs, entreprises, Futurescope, forme très classique SARL, pour leur demander comment ils sont fondés, pourquoi cette forme juridique, et ainsi de suite. Et ça, moi, personnellement, c'est ce que j'ai trouvé vraiment le plus instructif, parce qu'il y avait un côté retour d'expérience très concret. Et le dernier qu'on a vu, c'était la maison des associations dans notre ville de Rennes. Normalement, le réseau des maisons des associations est très étendu, en tout cas dans la plus grande partie des grandes villes de France. Vous allez trouver des assos qui aident les assos elles-mêmes. Et là, on est tombé sur quelqu'un qui a une spécialité juridique, qui a pu répondre à toutes nos questions, on a pu lui présenter notre projet. Et c'est grâce à lui où on s'est dit qu'une association, pour commencer, ça peut vraiment être une bonne idée.
C'est ça. En fait, c'est là qu'on en arrive. C'est que finalement, on a fait le choix, a priori fixé, là, de se lancer sous une forme associative. Donc, dans un premier temps, les éditions de l'Inframonde seront une maison d'édition associative pour plusieurs raisons. La première étant qu'on n'a pas besoin d'argent, de fonds de départ en tout cas, pour lancer une association. Il faut juste payer la publication au journal officiel et c'est parti. Et ça, c'était un vrai souci parce qu'on n'a pas d'investissement à mettre dans la structure. Quoi.
Non, effectivement, de toute façon, avec Corentin, on n'a pas de fonds de départ. Hein. On est tous les deux plutôt précaires dans nos situations financières actuellement. Donc, on n'avait pas les moyens d'investir dans ce... Dans notre maison d'édition et on voulait faire... En tout cas, moi, je suis quelqu'un d'assez prudent de nature et on ne met pas les œufs dans le même panier. Je voulais faire attention aussi à tout ce qui était engagement du patrimoine personnel. Faire attention, en fait, ne pas s'engager personnellement et financièrement.
C'est ça, notamment vis-à-vis des prêts bancaires. Après, c'est un enjeu qui est quand même important. Tout à l'heure, tu parlais des critères de TAC35 et c'est pas le seul incubateur à fonctionner comme ça. Et je trouve que ça soulève un point de notre lancement d'entreprise qui est notoire, c'est que beaucoup de systèmes d'aide aux entreprises, ils sont pensés sous forme de prêts qu'il va falloir du coup rembourser sur le long temps ou sous forme d'accompagnement, mais à condition qu'on crée un certain nombre d'emplois, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on lance une maison d'édition, on ne va pas sortir beaucoup d'argent et on ne va pas pouvoir salarier beaucoup de monde. Voilà, nous, on est laborieusement en train d'imaginer des solutions pour pouvoir salarier l'un d'entre nous au bout d'un an d'existence, mais ce n'est vraiment pas garanti, quoi. Pour toutes ces raisons-là, l'association, ça nous semblait, et pour celle qu'a évoquée Benjamin, l'association, ça nous semblait être une forme idéale, notamment aussi pour des facilités de gestion, parce qu'on la connaît bien, on a déjà tous les deux monté des associations, on en a coordonné d'autres, et donc c'est ce qui nous demande le moins de travail. Donc l'idée, c'est d'évoluer, de choisir le format associatif, et d'évoluer d'ici 3 ou 4 ans dans une forme SS plus entrepreneuriale, on va dire. C'est pas forcément une solution facile non plus, parce que du coup, l'association, elle est associée à un côté petite maison d'édition qui correspond pas à nos objectifs, nos ambitions. Enfin, je sais pas si y a aucun jugement dans ce que je dis, hein. C'est juste que on veut grossir, on veut générer de l'emploi, on veut contribuer à notre économie locale.
Oui, et l'association a souvent cette image de petite maison d'édition artisanale, alors qu'il y a des maisons d'édition associatives qui sont des grosses structures, qui ont plusieurs salariés et qui sont diffusées et distribuées. Hein. C'est juste sur le...
Ça représentera un travail supplémentaire, un peu plus important pour construire une forme de crédibilité auprès de gros partenaires comme les diffuseurs, distributeurs ou les banques. Mais globalement, il y a d'autres gens qui sont passés avant nous pour faire ce travail-là aussi de défrichage et on est relativement confiants. Du coup, on se tournera sans doute ensuite soit vers un format scope, soit vers un format SIC, en fonction de nos envies du moment, du contexte dans lequel sera l'association. Si on a en fait une vie associative qui est très très riche, avec beaucoup de gens qui veulent s'investir, par exemple un comité scientifique qu'on rassemblerait comme, je sais pas, adhérents ou bénévoles de l'association, bah ça pourrait se faire sous une forme de SIC. Si on se rend compte qu'on est surtout nous deux avec un certain nombre de partenaires freelance qui orbiteraient autour de l'association, alors on se tournera sans doute plus vers une scope. Ça, ce sera vraiment quelque chose de contextuel.
Oui, ça, on peut pas du tout l'anticiper. L'avenir nous le dira. Rendez-vous dans 3-4 ans dans un nouveau podcast où on vous dira comment transformer une maison d'édition associative en scope ou SIC.
C'est ça. Après, comme on l'a dit tout au long de cet épisode, il y a quand même pas mal de matière qui est trouvable avec des recherches sur Internet, pas trop difficilement. On espère que cet épisode a quand même défriché les choses pour plusieurs d'entre vous. Il était sans doute très technique.
Ouais, on est désolé, on a essayé de rendre ça le plus fluide possible et on espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas notre domaine de spécialité.
Cela dit, ça nous donne l'occasion de vous rappeler qu'on a une rubrique questions et une rubrique suggestions. N'hésitez surtout pas à nous contacter via les différents réseaux sociaux parce que là...
Oui, ce mois-ci, on n'a rien dans notre boîte à questions. Et donc, c'est pas plus mal hein, parce que là, c'était déjà un gros morceau. Mais du coup, n'hésitez pas pour les prochains à nous renvoyer un petit mot.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent. On a déjà pas mal de retours très positifs sur le podcast et on est toujours heureux de les recevoir. Donc merci à tous et puis à très bientôt.
Voilà, merci, à bientôt.